bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Fréquence Mitral. On se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau numéro de 100% Foot, votre émission dédiée à l'Olympique de Marseille et au football amateur régional. Voilà, aujourd'hui je me retrouve avec Patrick. Voilà, Franck n'est pas parmi nous, mais bon, ça ne nous empêchera pas de revenir sur toute la tue foot de la semaine écoulée. Voilà, un gros programme en perspective. On va parler des féminines, du national et de la section masculine de l'Olympique de Marseille qui jouait trois matchs au cours de cette semaine avec des fortunes diverses, voilà, oui, pour nos Olympiens. Voilà, dans chaque compétition, Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Championnat de France, Ligue 1 et la Coupe de France, voilà, qui s'est jouée hier soir en ouverture, puisque le reste des matchs aura lieu aujourd'hui et s'achèvera demain. Voilà, on connaîtra d'ailleurs les tirages au sort et les adversaires de tous ces clubs-là demain, juste avant le coup d'envoi de Strasbourg-Monaco, qui fermera cette parenthèse de Coupe de France pour les huitièmes de finale. Voilà, sans plus perdre le moindre instant, on va démarrer avec d'abord les féminines, les filles de Corinne Diacre qui jouaient une fois n'est pas coutume sur la pelouse de Turquin face au PFC en championnat d'Arkema Première Ligue, et ça a été une défaite 3-0 pour les filles de Corinne Diacre. Voilà, pas de redressement dans ce championnat. Patrick, toi, comment tu as perçu la rencontre?
C'est-à-dire, on sait que en Ligue 1 féminine, en Division 1 Arkema, il y a 5 équipes et puis les 7 autres qui font ce qu'elles peuvent. Et il y a un véritable monde entre les deux. Et le Paris FC, c'est une équipe qui est en 8e de la Ligue des Champions.
PSG, une équipe qui joue le haut tableau. Hein.
Voilà, qui joue le haut tableau, qui est même devant PSG maintenant, parce que PSG a un peu un problème. Ils sont en train de restructurer, donc ils ont un peu un problème. Ils ont perdu des joueuses importantes. Ouais. Lyon, n'en parlons pas, c'est hors concours.
Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que pour la section féminine du PSG, qui est dirigée par Paulo César, ancien milieu de terrain brésilien qui jouait dans l'équipe du Paris Saint-Germain il y a quelques années.
C'est compliqué. Ouais. Et là, disons que tu as une différence de niveau très nette. Alors, quand en plus tu fais des erreurs défensives, que tu prends deux buts en première mi-temps sur deux erreurs.
Ouais. C'est deux cadeaux, là, des joueuses marseillaises.
Ouais. Et c'est le seul truc qu'on peut regretter. Il y a un article aujourd'hui dans la Provence, d'ailleurs sur les féminines, où ils regrettent de ne pas avoir pu recruter en attaque parce qu'ils ont perdu une joueuse qui s'est blessée. Et du coup, tu te retrouves un peu en difficulté. Ils ont recruté derrière une gardienne, derrière et au milieu.
C'est très, très jeune.
Très jeune,
quand
oui.
Quand on regarde, la gardienne, 23 ans et 20 ans, la jeune polonaise.
Oui, 20 ans.
Et la dernière arrivée, j'ai vu que c'est de nouveau une internationale colombienne qui est passée par les États-Unis et qui jouait très, très peu en Espagne du côté de Levante. Cynthia Cabezas, qui a 19 ans seulement.
Oui, c'est donc des paris sur l'avenir. Mais c'est sûr que le foot féminin, ça coûte cher si tu veux des grosses pointures. Et puis, c'est pas sûr que tu attires des grosses pointures quand tu n'es pas en Ligue des Champions. Quoi. Ouais. Voilà.
Donc, là, pour une équipe qui veut se maintenir parmi l'élite du football féminin français, c'est sans recrutement sur le plan offensif, c'est compliqué.
Oui, hein. Oui, ouais, surtout que tu as une blessure qui fait que Tu as un élément de rotation qui est blessé, donc ça va être, mais les filles vont s'accrocher, elles font là, Paris FC, tu perds, mais tu fais des erreurs quand tu as des gamines de 20 ans en défense, que tu as en face des internationales. Tu as même Matteo, là, qui a été meilleure joueuse la saison dernière.
Oui, Clara Matteo, qui est internationale française, qui est appelée régulièrement dans le groupe France.
Et qui a été meilleure joueuse la saison dernière en championnat, quoi. Ouais. C'est sûr que ça fait une différence. Mais bon, le championnat, il se joue les 7-8 équipes qui sont derrière. Et il va falloir s'accrocher parce qu'effectivement, ça va être compliqué. Voilà.
Ah ben, disons que là, pour cette 14e journée, avec cette défaite, donc, l'OM ne bouge pas au classement. Les Marseillaises donc, restent sur la même position, inchangée, 9e. De ce classement sur 12, voilà, avec 8 petits points. Donc, la prochaine journée, ça sera un déplacement en Alsace sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg dimanche après-midi à 15h15.
Là, c'est une équipe de notre championnat. Il faudrait essayer de tenir un résultat parce que, en fait, tu en es réduit à te battre avec les équipes avec qui tu es en concurrence pour le maintien. Donc, aller prendre des points à une équipe avec qui tu es en concurrence, c'est intéressant, quoi. Parce qu'après, les quatre gros, c'est même pas la peine, voilà. Tu as une telle différence de niveau. Il y a les deux Parisiens, il y a évidemment Lyon qui est hors course, Fleury et Nantes, Et après, le reste, tu te bats pour le maintien.
Voilà. Et les Lyonnes de l'Olympique Lyonnais, entraînés par Jonathan Giraldès, l'Espagnol, viendront à Martigues de nouveau après la rencontre de Coupe de France dans 15 jours. Pour le compte de la 16e journée de cette Arkema Première Ligue.
Là, c'est une autre planète.
De nouveau, une confrontation face au leader de ce championnat qui est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes ce week-end dernier. On en a terminé avec les féminines, l'Olympique de Marseille, les filles, les Marseillaises qui sont 9e avec 12 points, comme je le disais précédemment. On va passer rapidement sur le national pour vous dire que ce week-end, il y avait une journée de championnat, la 19e, et qu'Aubagne n'était pas concernée puisque cette équipe du SCAB était exempte puisque elle devait jouer contre l'AC Ajaccio.
Et là, c'est Ajaccio, il a été rétrogradé, il a quasiment disparu à cause d'un dépôt de bilan. Donc du coup, le championnat est à 17 équipes, donc chaque journée, il y a un exempt. C'était Aubagne. Aubagne, ça va, milieu de tableau, tranquille, solide. Et il se déplace vendredi soir à Concarneau.
Cette équipe de Concarneau qui est actuellement 9e du championnat 15e avec 14 points.
Qui est quand même bien derrière Aubagne. Aubagne est assez bon à l'extérieur. On peut espérer qu'il fasse un bon résultat positif à Concarneau.
Concarneau qui a été défait à domicile 1-0 contre Bourg-Péronas ce week-end à l'occasion de cette 19e journée.
Et qui est donc en difficulté.
On en a terminé avec le football féminin et le national. Et donc, on va attaquer la semaine de l'Olympique de Marseille, avec d'abord ce match de Ligue des Champions. Un petit mot d'abord avant d'entamer le compte-rendu de la semaine. Et on va faire juste un petit point concernant le mercato de l'OM, puisque on sait que le marché d'hiver a fermé ses portes lundi soir à 20h en France. Mercato hivernal qui a vu 8 joueurs quitter le club et 4 arrivés. 4 milieux de terrain et aucune recrue sur le plan offensif. On avait déjà évoqué l'arrivée de Quentin Timber la semaine dernière qui a fait ses débuts contre Lens. Et le jeune Britannique de 18 ans formé à l'Académie d'Arsenal, Ethan Nwaneri. À ces deux joueurs est venu se rajouter un jeune joueur nigérien, Nadi, 22 ans, qui arrive du championnat de Jupiler League belge, Zulte Waregem, et Imad Abdelli. On en parlait déjà avec Franck et tous nos auditeurs la semaine dernière, le milieu de terrain international algérien qui a participé à quelques matchs de la Coupe d'Afrique avec la sélection des Fennec a finalement rejoint l'Olympique de Marseille à l'occasion de cette fenêtre de marché hivernale. Lui qui est arrivé en fin de contrat avec le Sco d'Angers en fin de saison. Patrick, un petit mot sur ces deux nouvelles recrues cette clôture de mercato.
Sur Abdelli, c'est une bonne recrue, parce qu'y compris, il n'est pas cher, puisqu'il était en fin de contrat en juin. Il s'était mis d'accord avec l'OM pour le 1er juillet. Donc Angers, ils ont beau essayer de faire monter l'indemnité, tu sais qu'ils vont te le lâcher, parce que dans quel état d'esprit va se trouver un gars qui a déjà signé ailleurs,
C'est vrai qu'il y avait deux clubs qui étaient sur lui. Il y avait les deux Olympiques, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Finalement,
lui, il a choisi l'OM parce que c'est son club de cœur, parce qu'il a de la famille ici, c'est une bonne recrue avec un petit bémol, même s'il faudra voir, comme toujours d'ailleurs, il faut toujours voir. Le mec a flambé au Havre, il a flambé à Angers où il était le patron de l'équipe, c'était un élément clé, c'est pour ça qu'ils ont hésité à le lâcher. Hein. Mais bon, mais le problème c'est qu'entre Angers, le Havre et Angers et l'OM, il y a quand même une petite différence.
Ah ouais, il y a vraiment
voilà. Alors, le mec
une différence de niveau.
Le mec est motivé, il a très envie. Moi j'aime bien, c'est un joueur qui joue plutôt milieu récupérateur, mais qui a joué souvent numéro 10, c'est-à-dire un meneur de jeu, un poste qui à l'OM est mal pourvu, parce que tu as Noaneri dont tu parlais, Thierry, mais qui est plutôt un attaquant, mais qui on en parlera tout à l'heure, mais qui, quand il vient défendre au milieu, fait parfois des petites bêtises et des erreurs de jeunesse.
C'est un profil qui faisait défaut dans l'effectif de l'Olympique de Marseille.
Un numéro milieu de terrain qui peut jouer assez haut en 10 pour organiser le jeu. Ils avaient essayé Gomez, O'Reilly, Vermeeren, et personne n'a marché, ou Nadir. Personne n'a matché.
Tu fais bien d'en parler, puisque Matt O'Reilly, il y a son prix qui a été cassé, donc retour à l'envoyeur, puisqu'il regagne les rangs de la Première Ligue et de l'Angleterre du côté de Brighton. Et Angel Gomez aussi rejoindra la Première Ligue et le championnat d'Angleterre, puisqu'il a été prêté du côté de Wolverhampton. Les loups de Wolverhampton qui occupent l'avant-dernière place de ce championnat d'Angleterre. Et qui ne sont pas dans une très grande forme.
Oui, oui, ils auront englués, beaucoup de mal à se maintenir.
Voilà, englués dans les profondeurs de cette première ligue anglaise.
Pour revenir par rapport à ce que nos auditeurs ont pu entendre à la télé, sur une autre radio, beaucoup nationale, RMC, enfin pour ne pas la nommer.
Des radios spécialisées.
Voilà, dans le foot. 8 départs et tout, en fait, tu as les 4 que tu n'es pas arrivé à exfiltrer cet été, à savoir Ruben Blanco, le gardien, les deux latéraux, Lirola et Ulysse Garcia, et puis Neil Maupay.
Voilà. Neil Maupay qui a marqué
avec Séville.
Lui qui a fait ses grands débuts lundi soir avec cette équipe andalouse contre Majorque. Malheureusement, ça n'a pas empêché les Sévillans de s'incliner lourdement sur la pelouse Majorque, 4-1.
Voilà, mais c'était les 4 joueurs que tu n'es pas arrivé à faire repartir, qui étaient plus ou moins placardisés, c'est-à-dire ils ont joué très peu. Blanco n'a même pas joué du tout.
Il était blessé, le portier espagnol.
Il devait être transféré, il était blessé pendant tout l'été, il a repris en fin octobre, début novembre, donc le mec, il n'avait pas pu être transféré.
C'est vrai que là dans l'effectif, il faisait figure de troisième gardien, derrière Jeronimo Rulli et Geoffrey Delangue.
Voilà, donc tu... mec, il ne sert pas, quoi. Donc tu as en fait fait des économies de salaire. Surtout que Garcia, tu l'as prêté avec option d'achat à 4 millions à Sassuolo en Italie.
Sassuolo qui récupère aussi Daryl Bacola. Après Robinho Vaz qui quitte l'OM pour la Serie A italienne et la S Roma. Ulysse Garcia et Daryl Bacola qui vont rejoindre
l'Italie.
L'ancien club de Roberto De Zerbi et Sassuolo.
Et pour revenir au transfert... En fait, tu as les 4, c'était normal, c'était prévu, c'était espéré même, financièrement. Angel Gomez, il était en échec. Donc,
après, lui a aussi la volonté de jouer, d'avoir du temps de jeu pour essayer de faire son retour à l'équipe nationale anglaise pour la Coupe du Monde.
Je pense qu'il n'y arrivera pas.
Ça risque
quand même
d'être compliqué.
Voilà, beaucoup de monde en Angleterre au milieu de terrain.
Il y a une sacrée concurrence à son poste.
Par contre, on sait que les Anglais sont très centrés championnat Premier League. Donc, en allant jouer à Wolverhampton, il est quasi sûr de jouer parce que l'équipe est en difficulté. Ça te permet de briller et éventuellement de te trouver un club. Ce qui, pour l'OM, il y a une option d'achat à 7 millions pour Wolverhampton, plus 1 million de prépayant. Donc, le mec, tu l'as eu gratuit.
C'est un prépayant assorti d'une option d'achat d'un montant de
7 millions.
Voilà, on le rappelle pour nos auditeurs.
Comme il était venu libre de Lille, tu ne l'avais pas payé. Ouais. C'est un bon truc. Et le mec ne marchait pas, était un échec. O'Reilly, il a été tenté, il a beaucoup joué, mais il n'a pas flambé. Donc, comme tu n'avais pas d'option d'achat d'ailleurs, mais il demandait Brighton 30-35 millions, tu ne vas pas le prendre. Donc, tu as cassé le prêt parce que...
Matt O'Reilly, s'il avait terminé la saison à l'OM, ça aurait été compliqué de pouvoir le conserver pour la saison prochaine.
Tu ne l'aurais pas pris parce qu'en plus, le mec n'a pas... il ne s'est pas, comment dirais-je, imposé, quoi. Il n'a pas cassé la baraque. Ouais. Donc, en fait, le seul truc, les seuls départs...
C'est vrai qu'il a fait juste des apparitions, des bribes de matchs.
Il a joué pas mal de matchs, mais il n'a jamais cassé la baraque, quoi.
C'est sûr que ce n'est pas le joueur qui a trouvé l'écran qu'on a remarqué le plus parmi toutes les recrues arrivées l'été dernier.
Voilà. Et après, tu as eu les deux jeunes qu'on a vendus. Alors, ça... pas mal choqué, moi je l'ai entendu chez les supporters et tout.
C'est vrai que ça fait déjà depuis quelques semaines qu'on parlait énormément de un départ durant ce mercato hivernal de Robinho Vaz et Daryl Bacola.
Il faut savoir qu'ils étaient en contrat jusqu'en 2027 pour Bacola, 2028 pour Vaz, avec des salaires de 10 000 euros par mois, les jeunes néo-pros, quoi, quand ils avaient...
Mais c'est vrai que comme c'est quand même deux jeunes qui étaient très, très prometteurs, à qui on prédestinait un grand avenir dans le football professionnel.
Après, je vois, il y a même eu un débat à l'équipe TV sur les jeunes partis trop tôt, le championnat de France se fait-il piller, fait un truc... truc bidon, parce que tu n'as plus de droit télé.
On ne va pas rentrer dans...
Parce qu'il y a Shérif, celui d'Angers, il y a plein de jeunes, les deux René, Kader, Meïté. Alors, moi, ce qui me choque plus, c'est quand les mecs partent en Arabie Saoudite.
C'est vrai, comme tu fais bien de le dire, puisque Kader Meïté a rejoint le leader de la Saudi Cup, Al Hilal, qui a obtenu le renfort de Karim Benzema aussi, qui reste toujours dans le championnat saoudien et qui quitte... l'équipe d'Al Ittihad, avec qui il était d'ailleurs en conflit ces dernières semaines.
Et là, par contre, les deux jeunes, tu as des joueurs qui ne veulent pas prolonger, qui ne prolongeront pas, qui demandent, évidemment, ils demandent beaucoup, mais c'est une négo. Mais tu ne peux pas non plus te permettre de filer 200 000 à des gamins qui ont 20 matchs en pro. Quoi. C'est parce qu'on te dit, Bacola, il avait fait un bon match contre Newcastle, oui, en Ligue des Champions, mais...
C'est la surprise dans le 11 titulaire de Roberto De Zerbi.
Il avait fait un bon match, mais enfin, c'est pas non plus le mec qui est rentré et qui n'est pas sorti de l'équipe. Et Vaz, c'est pareil. En plus, avec...
Il n'a pas énormément joué depuis cette titularisation face à Newcastle qui remonte à fin novembre.
Et d'après ce qu'on peut savoir, c'est que c'est beaucoup les histoires d'agents aussi. C'est-à-dire que l'agent, il prend 10% sur le transfert, donc voilà.
Il y a toujours des commissions qui sont prises à droite, à gauche.
Et voilà. Et donc, Vaz, il est parti à la Roma. La Roma, la Vincent, c'est Dobvik, la Vincent de l'équipe d'Ukraine. Il y a quand même Paulo Dybala et Mathias Soulé qui sont un second attaquant. C'est difficile.
C'est un club qui est encore qualifié pour la Coupe d'Europe avec l'Europa League.
Qui est
en haut tableau en championnat de Serie A en Italie.
Et donc, Bacola, on l'a dit, va à Sassuolo. C'est peut-être plus malin parce qu'à Sassuolo, il a plus de chances de jouer. Et donc, ça peut lui permettre de se montrer et tout. Et quand tu as des... Alors, puisqu'on va en parler juste après, l'élimination en Coupe d'Europe...
Mais c'est vrai que cette équipe de Sassuolo en championnat italien, c'est une équipe qui est tranquille, dans le milieu de tableau, qui va pouvoir terminer cette deuxième partie de saison plutôt en roue libre. Donc, il aura du temps de jeu et ça sera tout bénéfique pour lui reste de son avenir.
Il peut jouer alors que Vaz, qui arrive, qui n'est que deuxième remplaçant à la Roma... Avec la Roma joue une qualif européenne en Italie. Ils sont en Ligue Europa.
Ça risque d'être un peu plus bouché pour son temps de jeu.
Voilà,
c'est ça le souci.
Tu te demandes si les jeunes, hier soir, on parlait au stade, puisqu'il y avait, Jacquet, le joueur de Rennes, qui a fait d'ailleurs un bon match. 70 millions à Liverpool pour le mois de juillet.
Ouais. 72 bat. Même, apparemment. 72, j'ai vu le montant que les Reds de Liverpool ont déboursé pour le rapatrier en Angleterre l'été prochain.
C'est un bon joueur, c'est un bon prospect, mais tu peux pas... Moi, je comprends Rennes, tu peux pas dire non, surtout qu'on te parle du transfert.
C'est vrai que ce jeune joueur qui est international espoir, on en parlait davantage du côté de Londres et de Chelsea.
Après, je pense qu'il a eu raison de ne pas aller à Chelsea. C'est un mouroir. Il y a tellement de joueurs sous contrat que tu n'en sors plus.
On voit qu'il y a, je crois, près de 80 joueurs qui sont sous contrat dans cette équipe londonienne.
C'est énorme. Voilà.
C'est une usine à gaz, ce club de Chelsea.
Quand on pense que des internationaux français, donc Dissasi qui a été prêté à West Ham.
Voilà.
Badiachil et l'ancien Wesley Monégasque. Fofana, ouais. L'ancien Stéphanois, qui est Marseillais de naissance, ouais. D'ailleurs, sont sur le banc, ne jouent pas, parce que c'est une équipe qui a un nombre incalculable de mecs sous contrat. Ouais. Donc déjà, Liverpool, c'est moins con, c'est plus intelligent. Par contre, Liverpool, c'est un sacré niveau. Théoriquement, ils l'ont pris parce que Konaté était en fin de contrat, l'international français Ibrahima Konaté.
Oui, Ibrahima Konaté qui a fait son retour, voilà, qui avait raté le match au stade de l'Odrome contre
et
l'OM.
Qui a fait son retour dimanche.
Ouais. Lui qui a perdu son papa il y a quelques semaines, donc qu'il a privé de plusieurs rencontres avec
les Mets. C'était la raison de son absence, il a enterré son père. Et donc, il est en fin de contrat, il ne sait pas s'il prolonge, il semblerait qu'il parte. On parle du Real Madrid. Ouais. Voilà.
En tout cas, il est très, très convoité avant la Coupe du Monde l'été prochain qu'il disputera avec le groupe
France,
de Didier Deschamps.
Voilà. Et donc, il serait théoriquement pris pour remplacer. Mais Konaté, il a quand même 26 ans, 27 ans.
C'est un joueur qui est quand même...
Il est passé par
l'Allemagne et par Leipzig. Donc, c'est un joueur qui est beaucoup plus expérimenté que le jeune Jérémy Jacquet.
Il était dans l'équipe de Jürgen Klopp qui a été champion d'Europe il y a 3-4 ans.
Ouais.
Voilà, donc le mec, c'est du lourd. Jacquet, c'est jeune. On l'a vu hier soir, il a fait un bon match contre l'OM.
C'est vrai qu'il était titulaire. Abibé, il l'a lancé dès le coup d'envoi face à l'OM.
C'est le patron de la défense, c'est un très bon joueur. Mais entre le Stade Rennais où tu es un bon joueur indiscutable et Liverpool, il y a quand même un monde. Et c'est risqué. Après, il verra bien. Bonne chance à lui. C'est un jeune sympa. Et l'OM a fait pareil. Tu as des garçons. Et en plus, on parle des transferts, mais on ne parle pas des salaires. Je ne te dis pas ce que Jackie va toucher à Liverpool comparé à Rennes.
Ah ben c'est sûr que en termes de prétention salariale, ce que les joueurs perçoivent en Première Ligue en Angleterre,
ça a rien à
c'est
voir,
pas du même calibre qu'en France et en Ligue 1.
Hein. Oui. Et il paraît que Vaz, c'est ce qui se dit, il aurait signé à la Roma, qui est un gros club, qui a un gros stade, qui est un club européen pratiquement tous les ans. Il aurait signé pour plus de 200 000 euros par mois. L'OM ne peut pas filer 200 000 à un jeune qui joue des bouts de match. Quoi. Tu ne peux pas. Donc là-dessus, c'est sûr que moi, en tant qu'abonné et supporter, ça me choque, comme je suppose que ça te choque toi aussi, Thierry. Mais à un moment
donné, vrai que quand on découvre les montants des transferts ou des salaires, ça a de quoi choquer le supporter lambda que nous sommes et que la plupart des personnes qui vont au stade sont.
Voilà, pourquoi ce gamin qui est en plus, il était dans son club formateur, donc le public va être sympa, on va te laisser.
En post-formation
du temps,
à l'Olympique de Marseille,
venu
puisqu'il
de Sochaux.
Il est arrivé de Sochaux.
Et après, le problème, on ne prend pas en compte. Les agents qui ont un intérêt financier très important et les familles qui autour, les familles voient
tout l'entourage, les personnes qui lui ravitent
la voiture, la maison, la prime, le
autour
machin,
du joueur.
Moi je rappelle toujours le cas de Jérémy Boga, le joueur qui joue à Nice, là, qui vient de partir,
qui a été prêté par l'OGC Nice à la Juventus,
voilà, Juventus Turin, et qui est formé à la SPTT Marseille. Et qui avait 15 ans, et c'est Chelsea qui était venu le chercher. Ils avaient trouvé un appart, ils avaient trouvé un job au père et à la mère qui l'ont suivi à Londres, et lui, il était à l'école de formation, et avec un salaire du genre 10-15 000 euros à 15 ans. Et les parents, un boulot, et voilà, je veux dire, face à ça, toi, tu n'as pas... D'ailleurs, on a vu, puisqu'on suit nos amis d'Aubagne-Herbel, un jeune de 16 ans d'Aubagne-Herbel qui est parti à l'Inter
de
Milan. Voilà, 16 ans le gamin. C'est une nouveauté, les gamins, ils vont à 16 ans, ils n'ont jamais joué en équipe première. Enfin, le jeune Derbe, il avait fait deux apparitions en remplaçant.
Mais c'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus de très très jeunes joueurs qui ne sont même pas majeurs quitter des clubs français pour rejoindre des grosses écuries européennes
en
Italie, en Angleterre ou je ne sais où.
Je ne sais plus quel club anglais a acheté, j'ai appris son existence à la télé. Un jeune de Metz, 16 ans, Mojo, je ne connaissais pas du tout, il est international du 16, qui est parti dans un club anglais, je ne sais plus lequel, Aston Villa ou je ne sais pas où, qui est parti à 16 ans alors qu'il a zéro match en équipe première de Metz. Quoi. Ça devient craignos Et l'OM n'a pas pu, financièrement, tu gardais un gars dont tu ne savais pas s'il serait motivé, puisqu'il s'en va, qui refuse de prolonger, et à qui tu fais perdre. C'est le problème qu'avait Angers sur Abdelli, hein, puisqu'on va dire un petit mot sur Imad Abdelli. C'est un joueur qui gagnait un petit salaire à Angers. Enfin, un petit salaire.
Et sur le Sco d'Angers, ben, il y a le jeune joueur, là,
Shérif,
qui,
oui.
Shérif, qui est parti, qui a quitté le Maine-et-Loire pour rejoindre la Ligue turque, voilà, ouais, du côté d'Istanbul avec Fenerbahçe.
Voilà, il est parti pour 20 et quelques millions lui aussi, 22 millions comme Rubinho Vaz. Et comment veux-tu un club comme Angers, leur budget annuel, c'est 24 millions. Comment veux-tu qu'ils disent non? Et l'entraîneur d'Angers...
On en discutait la semaine dernière, puisque il y a l'OM qui a joué contre Angers il y a un peu plus de 2 semaines. Et c'est vrai que c'est l'un des plus petits budgets de ce Ligue 1, championnat de France de Ligue 1.
Et comment veux-tu... Et Abdelli, il voulait partir, mais entre autres, il faut savoir que le contrat qu'il avait signé à l'OM au 1er juillet, puisque quand tu as plus que 6 mois de contrat, tu peux signer un contrat pour le 1er juillet. C'est légal. Donc, il avait fait. C'est pour ça qu'il n'avait pas fait jouer. Tu joues contre l'équipe chez qui tu viens de signer, c'est compliqué. Et il triple son salaire à Marseille. Le mec... Voilà. Voilà, puis il a le temps de s'installer, de s'intégrer, comme ça quand il part en préparation fin juin, il a la tête libre, hein, sa femme et les gosses sont à la maison, il a l'appart, il a trouvé, il a loué, voilà. Donc c'est malheureusement, tu peux rien faire, mais moi je pense qu'Abdelli c'est une recrue intéressante, c'est un joueur solide.
On le verra, puisque je pense qu'il aura l'occasion de faire ses débuts très rapidement. Ouais, c'est vrai qu'il était en tribune hier soir pour la réception de Rennes à l'occasion de ce 8e de finale de Coupe de France. Voilà. Mais je pense que pour Roberto De Zerbi, c'est plutôt un profil intéressant qui pourra apporter une plus-value dans ce milieu terrain marseillais.
Surtout qu'au milieu, donc on vient d'en parler, Angel Gomez est parti, Matteo Reilly est parti et Daryl Bacola est parti. Voilà.
Mais pas Arthur Vermeeren,
on
pensait qu'il prendrait la direction de la Turquie, justement Istanbul, mais bon, pas du côté de Fenerbahçe, mais plutôt Galatasaray, on a vu qu'après ce match, le week-end dernier du PFC, il y a eu une légère altercation avec son coéquipier Geoffrey Kondogbia, qui l'aurait éventuellement poussé vers la sortie par les dirigeants, mais bon...
Après, quand
c'est vrai que même si son statut a peut-être changé, qu'il a eu un temps de jeu famélique depuis son expulsion face à Nantes au Vélodrome au début du mois de janvier.
Début janvier, oui, dans la fameuse défaite de 0. Après, Vermeeren, c'est un joueur qui...
Rapidement, puisque...
On va parler des 3 matchs.
Vermeeren, c'est un joueur des 3 rencontres de la semaine.
Qui posait problème à la direction de l'OM. Parce que c'est un joueur qui a signé à 18 ans en Belgique, il est parti au Red Bull Leipzig, auquel il appartient toujours. Il ne s'est pas imposé à Leipzig, même s'il avait fait des fois des bons matchs. Ils l'ont prêté à l'Atlético Madrid.
Et c'est vrai qu'il a très très peu joué du côté de l'Espagne et des Cochoneros de l'Atlético.
L'Atlético avait une option d'achat, ils ne l'ont pas levé, ils l'ont renvoyé à Leipzig.
Mais ce n'est pas un profil qui plaisait énormément à Diego Simeone, l'entraîneur de cette équipe de l'Atlético.
Alors, moi je pense que c'est un bon joueur, mais il est assez inconstant. Et donc, tu te dis, c'est à Leipzig qu'il n'a pas réussi, à l'Atlético, il n'a pas réussi. Chez toi, c'est mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du même franchement mauvais.
Et donc, c'est un international espoir belge.
Voilà, avec une option d'achat à 20, 21 millions d'euros, un truc comme ça. Est-ce que tu allais le garder? Donc, bon, il va rester. Je pense qu'il a intérêt à se battre quand il va jouer
Là, il va falloir qu'il se bouge et qu'il montre davantage au cours des séances d'entraînement pour espérer avoir un temps de jeu plus important les semaines à venir.
Et après, on va faire la jointure avec les 3 matchs.
Mais c'est vrai que là, avec une compétition en moins et l'élimination de la Ligue des Champions, justement, j'ai trouvé toute la transition et tout trouvé, puisque on va d'abord ouvrir ce débrief de la grande semaine de l'OM à travers l'élimination et ce match cataclysmique qu'on a vu sur la pelouse du stade Yann Bredel face à Bruges mercredi dernier. Ce jeune Belge, là, Arthur Vermeeren, arrivé l'été dernier, comme tu le disais, Patrick, de l'Atlético Madrid et qui appartient à Leipzig. Voilà. Donc voilà, ben, pour en revenir donc sur la semaine de l'OM, ben, ça avait démarré mercredi dernier avec ce match qu'on attendait tous pour valider la qualification pour les play-offs. Et puis bon, ça s'est très très mal passé avec entame de match catastrophique et un but dès la quatrième minute de Mohamed Diakhon, un joueur jeune français formé au stade de Reims, arrivé l'été dernier dans ce championnat belge sous les couverts de Bruges. Ce deuxième but de Vermaent,
voilà,
juste
11e,
avant le quart d'heure, voilà. qui a quasiment scellé le sort du match.
Alors, ce qui m'a choqué moi et qui a choqué les supporters, c'est que moi j'avais vu Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le
la veille du match.
Et de toute façon, tu disais et l'équipe et la province.
Ça avait été relayé dans tous les médias et dans les quotidiens spécialisés.
Bruges, c'est une équipe de guerriers. Ils te mettent un pressing d'enfer d'entrée. Ils avaient quand même fait 3-3 avec le Barça
au mois de novembre. Et ils en ont passé 4 à l'AS Monaco de la première journée.
Ils avaient mis 80 à Monaco la première journée. Donc c'est une équipe, tu savais qu'ils allaient attaquer. Donc De Zerbi disait, il va falloir tenir un début parce qu'on sait qu'ils vont nous mettre
après comme on l'évoquait la semaine dernière, c'est vrai que c'était une équipe qui était plutôt un peu plus friable sur le plan défensif puisqu'ils avaient pris 3 buts en championnat face à Zulte Waregem.
Le problème,
le week-end
c'est
qui précédait le match de Ligue des Champions,
pour les mettre en danger défensivement, encore faut-il avoir le ballon et attaquer. Et tu t'es fait prendre au pressing, tu n'as pas vu le jour, tu avais dit attention le début de match, on sait qu'ils vont attaquer, et à la 11e, tu es mené 2-0. Quoi.
Voilà.
Sur deux fautes de défense où tu te dis, mais vous savez que défendre, c'est coller ton attaquant, ne pas le lâcher, ne pas lui laisser 4 mètres, qu'il est tout seul pour reprendre de volée, ne s'entrant en retrait. Et là, hein, tu es... Alors, erreur de roulis sur le premier où il n'est pas bon dans la sortie, la frappe, elle n'est pas inarrêtable. Je ne sais pas ce qu'il fait.
On va en parler de la prestation du gardien argentin de l'Olympique de Marseille parce que ça suscite beaucoup de questions. Et d'ailleurs, on va en parler puisqu'on sait que pour la Coupe de France, Roberto De Zerbi lui préfère le portier néerlandais Geoffrey Delange qui a joué hier soir et qui est sorti de ce match sur un clean sheet face au Stade Rennais. Bon, c'est vrai qu'on a vu une équipe du Stade Rennais plutôt inoffensive.
Il n'a pas eu d'arrêt compliqué.
Il n'a pas été énormément sollicité, mais c'est vrai que le niveau actuel de Geronimo Rulli pose question, Patrick.
Oui, alors moi je pense, c'est mon avis, mais... Je pense que cette équipe, elle est dans le doute, parce que Rulli...
Mais comment tu expliques une prestation aussi mauvaise sur ce match qui était si important
Moi, ce qui me choque, c'est que tu t'es pas battu. Voilà.
On peut pas jouer un match de Coupe d'Europe et de Ligue des Champions avec cet état d'esprit.
Voilà, on en parlait l'autre fois, il y a 8 jours, en parlant de Liverpool. Liverpool, ils sont plus forts.
Oui, c'est vrai que tous les joueurs, l'avant-dernière journée,
ils sont largement au-dessus.
La défaite au Vélodrome il y a 2 semaines face à Liverpool, ça souffre d'aucune contestation. L'adversaire est supérieur, il faut savoir le souligner.
Ils ont fait un gros match, défensivement surtout. C'était costaud, puis le milieu de terrain, c'est des monstres. Et donc, ils t'ont mangé, mais ils sont plus forts. Là, individuellement, ils ne sont pas plus forts. Simplement, quand tu perds tes duels, quand tu perds les seconds ballons, comme on dit en foot, c'est que tu vas pas, quoi. Voilà.
C'est vrai que quand on prend les joueurs sur le plan individuel de cette équipe brugeoise...
C'est costaud, mais bon, il y a pas...
Le 11 titulaire que Ivan Leko, le coach croate, avait aligné, il me semble qu'il n'y a pas un joueur qui me paraît supérieur aux 11 alignés par Roberto De Zerbi au coup d'envoi.
Leur meilleur joueur sur le match, c'est l'ailier droit...
Aleksandar Stanković.
Stanković, c'est un milieu offensif, mais c'est celui qui joue à l'Ajax, Forbes.
Oui, Carlos Forbes, ce portugais qui a été impliqué
il a fait marquer. Stanković a mis le troisième, d'ailleurs. Mais eux, ils ont été bons. Mais
et d'ailleurs, on en parlait.
Je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur. Il n'est pas meilleur que Greenwood. Il est moins bon.
Le jeune ailier serbe, le fils de Dejan Stanković, grand joueur passé par l'Inter et la Lazio, qui a fait 6 matchs puisqu'il a été buteur et double passeur sur cette confrontation.
Il a été énorme sur ce match. Et ces mecs, c'est un très bon joueur. Mais enfin, je veux dire, tu n'as pas de quoi. La moitié de leur... En défense, ils ont Ordóñez, celui que Joël Ordóñez, le coach.
Oui, qui terminera probablement saison avec Bruges avant de partir
en Angleterre. Peut-être à Liverpool, on en parle. Mais lui, c'est un super joueur. L'OM voulait l'acheter, mais trop cher. Mais
l'international équatorien.
Voilà, c'est celui qui forme la charnière de l'Équateur avec Pacho,
William Pacho, le défenseur du Paris Saint-Germain.
Et donc, il y a lui qui est très costaud, Stankovic qui est bon, Forbes qui nous a fait très mal, Medina, il s'est fait bouffer tout le match. Et le problème, c'est que tu as manqué de réaction, tu as manqué de... Quand tu avais le ballon, il n'y a que Greenwood qui essayait de faire des trucs, les autres, tu as été bouffé. Et tu n'as pas fait un match de Ligue des Champions. Et
c'est vrai que généralement, voilà, dans une telle confrontation, c'est souvent le milieu de terrain qui fait la différence. Et là, visiblement, l'association Kondogbia-Pierre-Emile Højbjerg n'a pas fonctionné, voilà. Patrick.
Alors, elle n'a pas fonctionné parce qu'à mon avis, Kondogbia, c'est un joueur assez âgé. Hein, il a 33-34.
Mais j'ai remarqué, je ne sais pas, moi, on m'a souvent fait la remarque de la part de certains supporters, dans les grosses rencontres européennes, vu que c'est un joueur d'expérience, Roberto De Zerbi l'aligne systématiquement au milieu de terrain en tant que titulaire.
Alors, c'est à mon avis... Hein,
mais là, sur ce match-là, il n'a pas répondu présent comme on aurait souhaité.
Et il a un problème au Kondogbia, c'est qu'il est fragile physiquement. C'est pour ça
qu'il a eu souvent des pépins physiques par le passé.
C'est pour ça que...
Son corps commence à le lâcher. Voilà. Pourtant, ce n'est pas un joueur qui est si vieux que ça.
Oui, 33, c'est pas... Mais il était à l'Atlético Madrid et ils l'ont vendu à l'OM, parce que... et pas très cher.
Mais c'est vrai que lorsqu'il portait les couleurs de l'AS Monaco et du Racing Club de Lens, il était moins souvent blessé qu'aujourd'hui.
Et maintenant, il est fréquemment blessé.
Depuis son passage en Espagne, du côté de Séville, de l'Atlético, j'ai l'impression que ça devient compliqué. Il a du mal à enchaîner les matchs à cause de ses pépins à répétition.
Et quand tu joues en Ligue des Champions, c'est beaucoup une question d'intensité. Il faut répéter les matchs. Parce que quand tu joues...
c'est la répétition des efforts à haute intensité.
À un moment donné, tu es un peu court physiquement. Et ça te fait le dixième de seconde de retard dans le duel. Et en plus, Kondogbia et Højbjerg ont un défaut, entre guillemets, c'est que ce n'est pas des créateurs de jeu, ce n'est pas des gros passeurs. Tout à l'heure, on disait Abdelli, il a cette qualité de passe que eux sont des bons joueurs, des gros travailleurs. Mais et ce qui fait
c'est ce qui différencie son profil par rapport à Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg.
Oui, voilà, c'est-à-dire que lui, il est plus technique, il est plus dans la passe. Et le problème, c'est quand tu joues, il avait mis une équipe en 3-4-3 de Zerbi.
Ouais.
Tu joues, tu as tes deux latéraux, tu as que deux mecs au milieu. Et moi, ce qui me dérange, c'est que contre
avec Amir Mourinho, Balerdi, Aguerd.
Voilà. Et ce qui me dérange, c'est que contre Liverpool, tu avais pris l'eau au milieu. Alors, faut dire, tu avais des monstres. Hein.
Avec Alexis McAllister.
McAllister, Gravenberg et Szoboszlai. Et puis Wirtz qui
et
jouait.
Et Florian Wirtz en meneur jouait, créateur.
Voilà, en 10 derrière deux pointes et qui était tout le temps au milieu. Tu étais à 2 contre 4. Ouais. Et là, à Bruges.
Mais là, bon, c'est vrai que comparer le milieu de terrain de Liverpool face au club de Bruges.
Oui, c'est quand même pas le même niveau. Mais tu parlais de Stankovic. C'est un créateur, c'est un joueur très offensif. Ouais.
C'est un très bon joueur.
Et Stankovic, il a travaillé au milieu de terrain comme un forcené. Les mecs, c'est des combattants. Et toi, tu avais deux gars et tu as perdu.
Quand on voit un peu le profil qui était son papa du côté de l'Italie avec l'Inter et la Lazio.
C'est ce qu'on appelait un Yugo à l'époque. C'était de montagne quand j'étais jeune. Des joueurs hyper techniques. Mais c'est un combattant.
Des fourri classe, comme on
et
dit en
Italie. L'Italie fourri classe. Et le problème, c'est que tu as pris l'eau au milieu. Donc, tu n'as pas le ballon. Donc, tes sorties sont pas terribles. Et du coup, tu te retrouves en situation où les mecs, ils t'ont bouffé. Parce que le problème de Bruges, ils savaient...
Au niveau de la possession, quand je regarde les stats, là, j'ai les chiffres sous les yeux, il y a un léger avantage en faveur
pour
de l'OM.
Il y a
55-45 sur l'ensemble du match.
Voilà, le truc, c'est que c'est relativement
faussé. Au niveau des stats, je vois quasiment dans tous les compartiments, dans tous les domaines du jeu, l'OM était devant.
Mais
malheureusement,
problème,
ça n'a pas suffi pour faire la différence.
Tu as le ballon. Tu te le passes défenseur centraux, en plus tu jouais à 3, te le passes.
Mais c'est l'utilisation.
Tu as des problèmes et les mecs, ils t'attendaient. Ils t'attendaient plus bas, par contre.
Tu as des problèmes de finition aussi.
Dès que tu avais un ballon, tu avais un mec dessus. Et c'est donc compliqué. Et ce qui a choqué les supporters, hier soir, parce qu'on On est mercredi, hier soir il y avait le match de coupe, on va en parler
c'est
tout
le,
à l'heure.
C'est le match d'après qui voilà, faisait les retrouvailles avec le public marseillais.
Avec le Vélodrome, qui heureusement ça avait été anticipé lundi par une réunion et le stade voilà, a encouragé son équipe.
Il y a une réunion avec les représentants de tous les groupes de supporters au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus lundi soir.
Lundi soir, et donc ça s'est bien passé en termes d'accueil. Après, tu marques à la deuxième minute, donc ça arrange les
choses. C'est le scénario du match qui
mais,
a fait que...
Mais ce qui a été
reproché... facilité la tâche
voilà, ce qui
en
a
ayant
été
marqué rapidement.
Ce qui a été reproché, c'est que tu as perdu 3-0, donc c'est une déroute. Mm. Une déroute qui fait que tu es éliminé de la Ligue des Champions. Dans les conditions
et justement,
c'est les
conséquences que ça va avoir sur la saison, puisqu'on est... On est seulement début février. Il y a un championnat de France à terminer et une coupe nationale à éventuellement aller chercher.
Ah oui, oui. Mais
sur le plan physique, sur le plan mental et la position des dirigeants aussi par rapport à cette élimination.
Mais moi, je pense, je le disais tout à l'heure, que le fait que tu aies vendu certains joueurs que tu n'avais peut-être pas prévu, je pense que le retour d'O'Reilly, si tu es qualifié, tu as donc des matchs de plus.
Ben le fait qu'on ait une compétition en moins, forcément, voilà, alléger l'effectif, ça paraissait inéluctable pour les dirigeants.
Ça peut vouloir dire que tu as des joueurs qui joueront encore moins. Voilà. Et ça veut dire aussi que tu auras du temps de préparation que tu n'as pas quand tu joues tous les 3-4 jours. Mais par contre, ce qui est financièrement, c'est un coup très dur, ce qui explique aussi les départs. Parce que, voilà, à un moment donné, le budget, c'est la réalité. Tu perds quand même... Alors, on le rappelle à nos auditeurs, on aurait joué le Real Madrid en 16e. Ouais. Donc, compliqué. Voilà. Compliqué.
Sur une double confrontation.
Voilà, mais compliqué, justement, mais pas
le Real Madrid qui s'est incliné 4-2 sur la pelouse du
Benfica.
Stade de la Luz face au Benfica, et qui retrouvera le Benfica, d'ailleurs, à l'occasion ces barrages de la Ligue des Champions.
Puisque...
Le 18 et 25 février prochain.
Du coup, étant battu, ils finissent 9e, ils sortent du top 8.
Et là quand je regarde le classement des équipes qualifiées, je vois les joueurs azerbaïdjanais, Karabagh, qui en prennent 6 sur la pelouse d'Anfield la semaine dernière.
Bodo Glimt
qui a joué l'AS Monaco et qui a battu Manchester City. Première participation pour le petit club norvégien.
Il
termine 23e de cette phase régulière avec 9 points.
Voilà, et ce que les... Alors après, il y a un élément qui n'est pas pris en compte, je redis par rapport aux télé, radio, machin, c'est que le tirage au sort, on sait que le nouveau système de la Ligue des Champions, tu tires des équipes, tu as tiré quand même le... Newcastle, Liverpool, le Real Madrid.
Après, je pense que
Sporting,
peut-être qu'on n'a pas perdu la qualification de cette Ligue des Champions
sur
le
match
de Bruges. C'est pas sur les deux dernières journées et la réception de Liverpool et le déplacement en Belgique.
Les deux dernières journées, un point t'aurait qualifié.
Ouais.
Puisque Monaco, ils recevaient la Juve. La Juve était déjà qualifiée. Ils ont joué tous derrière. Ils ont fermé.
En tout cas, ça fait tâche pour l'Olympique de Marseille.
Ah oui.
Puisque, comme tu le disais si bien, Patrick, dans cette nouvelle formule qu'ils disent depuis l'an passé, c'est la première fois qu'un club français n'arrive pas à passer la phase régulière.
Après, quand tu regardes l'année dernière...
Il y avait le stade brestois et Lille.
Mais Brest, bravo. Total respect, équipe méritante, courageuse, tout ce que tu veux. Mais enfin, les deux premiers matchs, ils avaient tiré deux Autrichiens qu'ils ont battus.
Oui, le Sturm Graz
Linz, je crois, ou je ne sais plus qui. Donc, je veux dire, tu tires les Autrichiens ou Salzbourg, peut-être.
Salzbourg, oui. Salzbourg. Le Red Bull Salzbourg.
Voilà, et tu tires des équipes autrichiennes.
La filière de Red Bull en Autriche.
Nous, c'est vrai que le tirage au sort avait été à l'extérieur. C'est quand même le Sporting Portugal. Il n'y a qu'une équipe française en 10 ou 12 matchs qui a gagné là-bas. Ouais. Paris a perdu
il y a 15 jours sur la pelouse du stade Al-Wahed face au Sporting.
Les Belges, ce n'est pas des cadeaux. Et le Real Madrid, en plus, quand tu as l'arbitrage qui te met un pénalty inexistant contre toi, tu es à la rue. Et à la maison, tu avais quand même les deux Anglais, Newcastle, Liverpool. Tu avais l'Atalante.
Et l'Ajax Amsterdam.
L'Ajax que tu as largement battu.
Ouais, bon, quand on voit le parcours de cette équipe de l'Ajax,
Là où les supporters râlent, c'est que c'est pas l'élimination à la limite. L'élimination, tu as un peu honte, quoi. Tu passes pour un con. Mm. Mais par contre, c'est la manière.
C'est la manière, voilà, qui fait tâche. C'est sûr. C'est surtout le contenu et la prestation d'ensemble.
Voilà, le contenu du match. Parce que moi, je parlais parce avec que, les collègues.
Après, tu peux perdre. Ça oui, arrive à oui, tout le monde. Quand l'adversaire est plus fort et supérieur, il n'y a rien à dire. Mais là, c'est le fait de ne pas avoir joué, de ne voilà, pas être battu. Parce on sait les ingrédients qu'il faut mettre pour gagner un match de Coupe d'Europe et de Ligue des Champions.
Tu le sais, Thierry, on discute avec les collègues au stade. Moi, donc, je suis virage sud aux ultras. Donc
ça parle beaucoup, ça échange
les mecs,
énormément.
Il y a beaucoup d'anciens, des gars qui ont 50, 60 et qui en ont vu. Contre Liverpool, tu es déçu parce que tu n'as pas été bon, ils t'ont mangé. Mais tu te dis, attends, les mecs, tu as vu l'équipe, c'est des monstres. La
mais
Bruges.
On dirait qu'on n'apprend pas des erreurs
voilà,
du passé.
On n'apprend pas.
C'est ça qui est difficile à digérer et à évoquer.
Et là où c'est ralent, c'est que tu aurais perdu 3-1 à Bruges, tu es qualifié.
C'est vrai que le fait de t'être incliné.
Tu as 3-4 occasions en seconde mi-temps, voilà.
Mais là sur ce parcours européen, sur les deux derniers matchs, tu prends 3-0 à la maison face à Liverpool et 3-0 à l'extérieur face à Bruges. Voilà, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe belge.
Tu te fais.
Qui, comme on le soulignait la semaine dernière, n'est même pas leader de son championnat.
Tu te fais exploser à Barcelone, à Man U, au Bayern de Munich.
Mais là, on ne peut pas dire qu'on ait joué un cador, un grand d'Europe. Donc
et on
n'a
pas joué.
Vraiment,
on a eu une équipe qui, par contre, elle, s'est battue. Les mecs sont sortis des tripes. Et toi, le sentiment qu'on a, c'est que tu n'as pas joué. Quoi. Voilà. C'est le même sentiment. Comme ça, on embraye sur
il nous reste un petit quart d'heure avant de terminer cette
émission. À Paris contre Paris FC. Voilà.
Ben justement,
Paris FC, tu joues bien, tu les promènes pendant 80 minutes, tu mets 2 buts, tu devrais en mettre 4.
Voilà. C'est le manque d'efficacité qui te fait défaut parce que malheureusement, tu te fais rejoindre au score.
Tu fais une énorme erreur de défense à la 83e, le mec il est seul, il fusille, voilà, tu te demandes pourquoi. Et dans les arrêts de jeu, moi,
c'est la réduction de Jonathan Ikoné dans un premier temps qui te fait douter. Et après, ce qui devait arriver arriva, j'ai envie de dire.
Je ne sais pas nos auditeurs s'ils ont vu le match. Moi, on regardait le match, c'était en famille. Quoi. On dit, on va en prendre un. Et on l'a pris.
Mais c'est vrai que quand on voyait le scénario du match l'évolution de la rencontre, on se disait que le but égalisateur parisien était inévitable.
Voilà, tu le sentais arriver. Et en plus, c'est un but vidéogag qu'on appelle. C'est-à-dire, tu fais une faute bête au milieu de terrain. Le mec, il doit se mettre devant le ballon pour empêcher le coup franc rapide. Il glisse, il tombe. Dans les mecs, il le joue, mais à l'entraînement. Il y a un joueur sur le côté droit, c'est le côté droit, qui est tout seul et que personne ne vient charger, qui fait un centre millimétré. Il est seul. Il n'y a personne qui vient au marquage. Et le Mounetzi, le joueur qui vient d'arriver d'Angleterre, qui joue au Paris Football Club, il est seul.
Oui, Marshall Mounetzi,
l'ancien joueur de Reims, d'ailleurs.
De Reims.
Voilà. Et alors, on te dit, Rouli fait une erreur. Oui, il est en retard. Donc, il arrive trop tard. Et au lieu de prendre le ballon,
il prend le joueur.
Voilà. Donc, pénalty et carton jaune. Il n'y a rien à dire.
Et donc, là, Monsieur Pignard, l'arbitre de la rencontre, ne peut, ne peut que siffler pénalty.
Il n'y a rien à dire. Par contre, comment ça se fait que... Bon, tu perds bêtement, le mec il glisse, donc il laisse le mec jouer le coup franc tout seul sans se mettre devant. L'autre, il est seul pour centrer, personne ne vient l'attaquer, le gêner, donc il fait un bon centre. Et le mec, il est seul devant Rouli. Il y a pas un, il a plongé, c'est un milieu de terrain.
C'est des situations inexplicables.
Alors,
ça, c'est...
Certes, Rouli fait une erreur parce qu'il sort, il est en retard, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un mec au duel qui vient gêner le gars, qui vient empêcher de placer la tête.
C'est surtout la position et le placement des défenseurs
Le premier but, le but de la 83e d'Ikoné, tu te dis, vous savez que les gars, quand on marque un mec, on est dessus. On n'est pas à 4 mètres. On est dessus.
Il y a des erreurs de placement,
C'est hallucinant.
Sur les joueurs offensifs adverses.
Mais c'est surtout hallucinant. Parce que moi qui regarde tous les matchs, qui vais au stade et tout,
ça suscite pas mal d'interrogations quand même, parce que quand on voit toute la rigueur et la mise en place de la part de l'entraîneur, Roberto De Zerbi,
qui est réputé pour être
on a du mal à imaginer que ces équipes et ces joueurs puissent faire de telles erreurs.
Et surtout qu'en début de saison, tu les faisais pas. Ouais. Ah, tu étais battu, tu perdais, tu passais à côté, tu avais des joueurs.
Mais là, c'est
tout le monde qui passe à côté. Après, il faut quand même expliquer à nos auditeurs que quand toute l'équipe est à la rue, personne ne peut surnager. Un peu Greenwood, parce qu'il est technique, il dribble, il fait des trucs tout seul.
Mais malheureusement,
voilà, c'est tout, quoi. Mais toute l'équipe a plongé.
Ces deux buts qui permettent à cette équipe du Paris FC de revenir à hauteur de l'OM ont eu des conséquences sur le plan
Lyon
du
classement. Rattrape.
Voilà, avec la victoire le lendemain de l'Olympique Lyonnais face à Lille, les Lyonnais reviennent à hauteur de l'OM. Alors, avec 39 points.
On peut dire que Lyon, qui est toujours en Coupe d'Europe, puisqu'ils sont sortis premiers de l'Europa League. Voilà. Donc ils sont en Coupe d'Europe, ils vont avoir du mal.
Et qui jouera en Coupe de France contre Laval aujourd'hui.
Et qui joue en Coupe de France ce soir, ils auront du mal aussi à ne pas avoir, comme l'a eu Rennes, comme l'a eu Strasbourg, comme l'a actuellement l'OM, un passage à vide. Tu n'arrives pas à faire la saison entière à fond les ballons. Mais malgré tout, ils t'ont rattrapé.
Mais cette équipe de Lyon, on dirait que c'est une équipe qui revient de nulle part. La plupart des spécialistes leur prédestinaient un avenir en Ligue 2 pour cette saison.
Oui, ils étaient en Ligue 2, ils étaient rétrogradés pour des raisons financières. Ils s'en sortent parce ils ont réussi à dégager l'américain folklorique Textor et à trouver quelqu'un de crédible, puisque Michel Kang, elle est connue.
Qui s'occupe aussi, on en parlait de la section féminine. Les Lyonnes de l'OL.
Elle a aussi un club aux États-Unis, elle est connue dans le milieu du foot, c'est quelqu'un une femme d'affaires très stricte, très rigoureuse, donc la DNCG lui a fait confiance.
Il y a eu le maintien aussi de l'entraîneur, Paulo Fonseca, malgré sa longue suspension.
Ils ont la chance d'avoir quelques joueurs, ils ont bien recruté, l'anglais Morton, c'est un bon joueur. Ils ont une équipe
un ancien
costaud,
de Liverpool.
Voilà, et donc ils ont une équipe solide et ils ont pas mal de réussite parce que tu disais contre Lille, ils gagnent 1-0. Il marque un but, en fait.
Et en plus, avec un but du nouvel recrue,
un jeune joueur qui...
Danois.
Qui vient du Danemark, Brøndby.
Jouait en championnat danois sous le couvert de Brøndby.
Et qui marque, mais Lille a eu des occasions, ils ne les ont pas mis. Mais enfin, je veux dire, c'est leur gardien qui leur en sort une en seconde mi-temps. Enfin, mais à l'arrache, difficilement, mais ils gagnent. Et ça, c'est des trucs que toi, tu n'y arrives pas, parce qu'à Paris, à la 80e, tu mènes 2-0, tu as eu deux grosses occasions de faire le break à 3-0, tu as raté, tu dis ça va, mais non, ça ne va pas, et tu t'effondres mentalement, parce que c'est mental, c'est pas possible que tu vois. Et là, c'est un vrai problème, ce qui pose une question sur l'équipe, le vestiaire, l'entraînement. Est-ce que ça s'entend bien? Est-ce que ça fonctionne? Parce que là...
pour en rester toujours au niveau du championnat, par rapport à la suite de la saison, on sait qu'il y a de nouveau un déplacement qui se profile dans la capitale dimanche avec ce gros match face au Paris Saint-Germain. Voilà, le Paris Saint-Germain qui jouera d'ailleurs sans Achraf Hakimi, qui a pris un carton rouge à un quart d'heure de la fin sur la pelouse de la Méno face au Racing Club de Strasbourg le week-end dernier.
Qu'à la limite, Paris, tu n'as rien à perdre. Tu n'es pas favori. Moi, je me rappelle le trophée des champions.
Mais Paris qui ne joue pas cette semaine en Coupe de France,
puisque
Parisiens ont été éliminés face au PFC au tour précédent.
Tu as l'impression que l'OM, ils te font peur sur les matchs. Pas compliqué, parce que tes deux meilleurs matchs en Ligue des Champions, c'est à Madrid. Tu perds, mais tu aurais mérité le match
Le
nul.
Premier match, première
et
journée.
C'est Newcastle où tu es mené au score sur un but malheureux. Et
où tu arrives à revenir et gagner grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.
Voilà, et à tenir le résultat. Tu as l'impression que les équipes dures, tu fais des bons matchs. Et c'est contre les équipes, contre Nantes au Vélodrome, que tu joues pas et que tu perds.
Et donc, après, quel visage de l'OM dimanche à Paris? Celui qu'on a vu au Koweït pour le trophée des champions
Je ne sais pas, le
visage exécrable, j'allais dire...
De Bruges.
À Bruges la semaine dernière en Ligue des champions.
Je pense... Alors, c'est pas pour défendre Longoria et Benatia, ils font pas tout bien, ils font des conneries, tout le monde a
fait. Bon, après, on n'est pas là pour,
on est pas là pour
les accabler,
pour faire des procès, des trucs comme certaines émissions dites spécialisées où il faut trouver du buzz, bon, du clash et
compagnie. Nous, on essaie de rester,
de rester neutre, hein, de rester relativement objectif.
Bon, mais on portera pas de jugement sur l'équipe dirigeante, que ce soit Pablo Longoria ou Mehdi Benatia.
Moi, je pense que s'il y a eu 8 sorties qui n'étaient pas forcément prévues au départ, d'ailleurs, puisqu'il y en a 5 ou 6 qui se font dans les 4-5 derniers jours, après l'élimination à Bruges.
Mais c'est vrai que
c'est
bon,
financier, mais c'est aussi que dans le vestiaire, il doit y avoir un problème.
C'est vrai que le fait de voir le calendrier s'alléger pour la suite de la saison, ça a quand même guidé les choix de la direction marseillaise.
Cela dit, tu as fait venir Quentin Thibert, qui m'a l'air d'être un joueur intéressant. C'est quand même un gars qui a 8 sélections en équipe des Pays-Bas, donc c'est pas mauvais, quoi.
Et puis qui joue sa place pour jouer la Coupe du Monde avec cette équipe
des Pays-Bas,
de la Hollande.
Et Noaneri, qui joue pour exister, Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, l'a envoyé pour qu'il joue. Parce que
et d'ailleurs, a dit que Roberto De Zerbi était un entraîneur qui avait tout à fait le profil
pour le faire progresser
et s'améliorer.
Et moi, je remarque que depuis qu'ils sont arrivés, ils sont titulaires, tous les deux. Et je pense que Abdelli va vite rentrer.
Parce que c'est vrai que malheureusement, ils n'étaient pas qualifiés, ces deux joueurs, Ethan Noaneri, que Quentin Thibert en Coupe d'Europe.
En Ligue des Champions.
Ils auraient pu jouer si on avait été qualifiés, mais bon, les deux ont enchaîné une troisième titularisation hier avec ce match de Coupe.
Voilà,
il nous reste très très peu de temps pour d'ailleurs évoquer
ce match.
Mais bon.
Alors donc, sur le match de Coupe. Je disais qu'il y a eu une réunion.
Tu voulais rien rajouter concernant le déplacement
Paris
passé,
je préfère à PSG, on n'a rien à perdre. Faut y aller. Mais sur
Rennes, rappellera juste à nos auditeurs, prochain match, c'est dimanche prochain sur la pelouse du Parc face au PSG.
Sur Rennes, il a mis les mecs fiables, c'est-à-dire les combattants, même si ce n'est pas les meilleurs. Hormis Aguerd qu'on a laissé au repos.
Et le retour d'Emerson Palmieri, qui était absent depuis la veille du match contre Liverpool. Voilà, 15 jours d'absence pour l'Italo-Brésilien. Mais
il a fait un
joueur
bon match.
Qui sortait d'un très bon match à Angers avec deux passes décisives sur les 5 buts marqués.
C'est un joueur qui t'amène du calme, de la qualité de relance. Et qui est un
joueur qui est plutôt fiable dans le système de Roberto De Zerbi.
C'est un mec qui a en plus de la bouteille. Et donc, il t'a mis l'équipe qui devrait être l'équipe type. Et surtout, je pense qu'on a une chance énorme, merci Quentin Merlin, de marquer à la deuxième minute.
C'est vrai que sur cette interception de Timothy Weah, l'erreur de l'ancien Nantais marseillais...
Il tarde à dégager, il se fait contrer. Et du coup,
c'est vrai que son retour sur la pelouse du Vélodrome, ça lui a pas souri.
Après, il a quand même une excuse. Il a fait 3 postes différents dans le match.
C'est vrai qu'il est un peu trimballé à droite, à gauche par Abibay au niveau du système de jeu.
Il a fait piston gauche, milieu de terrain, arrière au droit. Donc c'est un peu compliqué.
Il a du mal à se stabiliser à un poste bien précis.
Et donc il se fait contrer, centre devant le but, Gouiri à bout portant.
C'est Timothy Weah qui intercepte ce ballon et qui donne à l'avant-centre algérien de l'Olympique de Marseille.
Et donc là c'est quand même la réussite. Et puis en seconde mi-temps, tu ne mènes qu'un 0. Première action, 30 secondes de jeu, une interception sur une relance du gardien, d'ailleurs, Samba, qui n'est pas responsable, à mon avis.
Non,
parce que lui,
tu
interceptes dans ton camp.
Mais c'est surtout la défense rennaise
qui est à la rue. Et tu te retrouves avec une passe à Greenwood.
C'est vrai que les malheureux rennais en avaient déjà pris 4 sur la pelouse du stade Louis II 3 jours auparavant.
Voilà, et Greenwood contrôle, fixe le goal et fusille. Voilà. 2-0 à la 46e. Donc là, ça devenait dur. On aurait dû mettre 3, mais Gouiri a raté l'occasion énorme.
Et d'ailleurs, il s'est fait siffler l'avant-centre algérien à sa sortie.
Oui, parce que malheureusement, mais c'était prévu.
Après, c'est vrai qu'il y a eu ce troisième but
de Aubameyang.
De la part de Pierre-Emerick Aubameyang qui a démarré le match sur le banc.
C'est bon pour le moral. Et avec une passe magnifique de Greenwood. Après, sur Gouiri, je trouve que c'est con de l'avoir sifflé parce qu'il a marqué, il a été passeur décisif.
Après, c'est vrai qu'hier, moi, au stade, on m'a demandé quel était mon homme du match. Moi, j'ai voulu vraiment parler d'une performance collective sur le... Je pense que chaque joueur, après, si on doit éventuellement mettre un joueur plus en avant que l'autre, c'est peut-être Mason Greenwood qui a réussi à marquer et à faire une passe décisive.
Et parce qu'après, il faut dire ce qu'il
c'est
est.
C'est le joueur le plus influent au niveau
de le joueur de plus grand talent de l'équipe. Ouais. Mais c'est injuste pour Guiri parce qu'il sort juste après avoir raté une vache dans un couloir. Quoi. Il a une passe de Greenwood, le goal.
C'est quasiment un caviar que lui donne Mason Greenwood.
Et quelques minutes après, Aubameyang, lui, il a mis au fond.
Ah, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait le comparatif.
Je pense que c'est pour
deux,
ça que j'ai fait siffler. Mais bon, dans l'ensemble, le public a soutenu l'équipe.
Voilà. C'est vrai qu'après cette période compliquée avec ce double enchaînement Bruges et PFC.
La crainte, elle était là. Et quand tu vois. Voilà. Juste un dernier mot sur...
Il nous reste une minute avant de rendre l'antenne et clôturer cette émission.
Les problèmes de l'OGC Nice, comme quoi des débordements stupides peuvent avoir des conséquences graves pour l'équipe, tu te dis heureusement que le public a encouragé. Parce que Rennes, il n'aurait pas fallu qu'on en prenne un et qu'on soit dominé, que le public se mette à siffler et tu pouvais te faire éliminer. Ouais. Donc là, on a la chance, on marque les premiers, on a contrôlé le match tranquille.
Et ce qui est bien, c'est qu'aussi l'OM est sorti avec une victoire et un clean sheet.
Clean sheet, trois buts.
Geoffrey Delange n'a pas été énormément sollicité. Non, je disais auparavant, cette équipe rennaise, elle a été assez inoffensive. Donc, très, très peu de boulot pour le gardien néerlandais.
Si tu prends Rennes, il y a Jacquet qui, derrière, a fait ce qu'il a pu. Et puis, il y a les deux ailiers, le Jordanien Altamari qui est bon.
Oui, Moussa Altamari, l'ancien joueur de Montpellier.
Le Polonais qui vient d'arriver,
Zimanski arrivé du Fener de Turquie.
Voilà, en Turquie, qui eux ont fait à peu près leur match. Les autres...
C'est une équipe décevante. J'ai l'impression que Abibay a perdu la main sur son groupe.
Ou alors, ils ont une grosse baisse collective.
Voilà. Moi, je voyais sur les écrans du Vélodrome, à un moment, il y a eu un gros plan sur le président ancien du Racing Club de Lens, Arnaud Pouille, qui était dans les tribunes.
Il était vert.
Je voyais la tête dépitée du dirigeant rennais sur la prestation de son équipe.
Ah oui, au début de chaque mi-temps, tu fais une énorme erreur de marquage.
Et malheureusement, ça leur a coûté un but à chaque erreur.
Et surtout que je pense qu'ils devaient se dire c'est une équipe malade qui n'est pas en confiance, on a peut-être un coup à jouer.
On s'est dit on les prend peut-être au bon moment sur un match de coupe, chez eux.
Et nous maintenant, faire un match correct à Paris, même si on ne gagne pas.
Voilà. Rapidement,
on arrive à faire un match correct à Paris, tu t'es qualifié pour les quarts de finale, en espérant un tirage un peu clément.
Voilà. On connaîtra l'adversaire de l'OM demain soir, le dernier match de ces huitièmes de finale Coupe de France.
Ça peut te relancer, ça peut te faire un coup de boost, parce que cette année, maintenant, la Ligue des Champions, le podium pour la Ligue des Champions, sûr, pas à quatrième place, donc attention à Lyon, et puis la Coupe qui est l'objectif que tout le monde attend depuis des années. Mais ça
L'Olympique Lyonnais
qui
se déplace sur la pelouse de la Beaugeoire face à Nantes le week-end prochain
et qui
viendra au Vélodrome dans trois semaines.
Voilà.
Le 1er mars, il y a un Olympico qui se profile du côté du Vélodrome. Et voilà, les Lyonnais qu'on peut éventuellement retrouver en Coupe de France trois jours après, puisque les quarts de finale de la Coupe de France sont prévus en milieu de semaine, le 4 mars.
Voilà.
Donc ça pourrait être éventuellement un double affrontement face à cette équipe lyonnaise.
En espérant que si on les tire au Vélodrome. Voilà.
Toi, tu as une préférence, Patrick, pour rapidement, avant de conclure et rendre l'antenne à nos auditeurs.
Une équipe de Ligue 2, Reims s'est qualifiée hier soir. Il peut y en avoir une ou deux ce soir.
Le Stade Rémois qui a battu Le Mans 3-0 sur le même soir que l'OM.
C'est pas des cadeaux, mais... Voilà.
Bon, après, on sait qu'il y a encore. Il y a le Racing Club de Lens qui se déplace
à Troyes. Il y a Strasbourg-Monaco demain
en clôture. Il y a Nice-Montpellier. Il y a un Lorient-Paris FC. Voilà, le PFC tombeur du PSG au tour précédent.
Voilà,
il va falloir se méfier parce que si on rejoue cette deuxième équipe de Paris et qu'on est capable de les mettre en difficulté, comme ça a été le cas au stade Jean-Bouin samedi, tout est permis.
Voir.
Voilà. Ben on va se laisser, on va vous quitter et on se retrouve la semaine prochaine avec le retour de Franck et on espère un bon match de nos Olympiens sur la pelouse du Parc dimanche et on vous dit bonne semaine et bye bye.
Au revoir.